Bienvenue, voici Girls Power, le podcast autour des femmes et des féminismes. Ici, on discute avec des autrices de leurs livres, de leurs expériences et leurs réflexions autour de l'histoire des femmes, l'évolution des féminismes, l'écoféminisme ou les sorcières. Les maîtres mots sont la bienveillance, l'écoute et le partage. Je m'appelle Marie, je suis libraire et à l'origine Girls Power est un cycle de soirées ayant lieu dans la librairie où je travaille. Vous vous apprêtez à écouter l'enregistrement de l'un de ces moments. Bienvenue dans le monde de Girls Power. Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue pour cette soirée du cycle Girls Power, le cycle autour des femmes et des féminismes. Je suis Marie Morel, je suis libraire et animatrice du coup de ce cycle, et ce soir je suis très bien entourée car je suis avec Jennifer Artemis et Elvira Masson. Bienvenue à vous deux.
Bonsoir à tous et toutes.
Bonsoir à tous et toutes.
Je vais vous présenter un petit peu rapidement et après on aura le temps de développer. Elvira, tu es rédactrice en chef lifestyle de Marie Claire, chroniqueuse culinaire également dans Très Très Bon sur Paris Première et dans On va déguster sur France Inter, et tu as publié Dans ma cuisine. Jennifer, tu es naturopathe et pâtissière et l'autrice également de plusieurs livres. Là j'ai Épicerie naturelle maison et Pâtisserie naturelle. Et ce soir, nous sommes là et vous êtes là pour parler de votre livre qui vient de sortir et qui s'appelle « Le manuel gourmand de la ménopause » qui vient d'être publié par les éditions du Seuil. C'est, semble-t-il, le premier livre de cuisine qui répond aux problématiques spécifiques des femmes de 40 à 60 ans. Un sujet éminemment politique, éminemment important, car nous passons toutes et tous quand même pas mal de temps à manger dans notre vie. Pour certains d'entre nous, pas mal de temps à cuisiner. Et en tant que femme ou considérée comme telle, le sujet de la nourriture est primordial souvent depuis très petite. On voit même encore aujourd'hui que beaucoup des petites filles très jeunes commencent déjà à se surveiller leur poids, etc. C'est donc très important d'avoir un livre qui soit gourmand et qui ne soit pas un énième livre de régime. Parmi les points forts du livre, moi j'ai repéré que les recettes en plus sont gourmandes, mais elles ne sont pas forcément très compliquées. Il y a même une partie sur le pouce pour les gens comme moi qui sont assez impatients, qui adorent manger, mais qui n'ont pas trop le temps à accorder à la cuisine. Mais avant de parler de ce livre-là, je voulais revenir sur chacune d'entre vous. Elvira, dans ton édito, tu as évoqué quelque chose qui est du syndrome de l'impostrice que tu as pu avoir quand tu as été au début du projet de ce livre, alors que tu interviens dans des émissions de radio, alors que tu travailles à Marie-Claire. Donc c'est des boulots dans lesquels il y a quand même souvent des prises de parole en public. Est-ce que tu peux nous parler pourquoi est-ce que tu as eu ce syndrome-là à l'origine du travail sur le livre?
Un syndrome bien connu des femmes, hein. Donc voilà. J'ai éprouvé ce syndrome parce que on est en France, dans un pays où la parole qui peut toucher à des sujets sensibles liés à la santé pouvait me sembler être légitimement celle du corps médical, qui n'autorise pas tellement, alors si on prend le sujet de la ménopause ou le sujet des problématiques féminines de manière générale, les médecins envoient au chapitre quand on veut considérer la chose de manière un petit peu plus holistique, et pardon d'employer ce mot qui est un peu galvaudé, qui veut un peu tout et rien dire, mais quand on veut regarder les choses de manière un peu plus intégrative, un peu plus globale, en France, peut-être que c'est en Occident, mais moi j'ai l'impression que c'est beaucoup en France, on a un peu peur de flirter avec quelque chose qui pourrait relever un peu du charlatanisme. Ajoute à ça une autre couche qui est, voilà, je suis journaliste, donc un peu touche à tout, et je suis donc pas médecin, ça c'est évident, je suis pas non plus naturopathe, donc quand le sujet m'a été proposé au tout départ, donc d'abord c'était Marie-Claire, on a eu cette idée, il n'était pas question de m'adresser à ce sujet sans faire appel à Jennifer. J'ai dit ouais, il faut que tu m'aides, puis plus que m'aider, on va faire ensemble. Mais c'est vrai que quand notre éditrice au seuil, Nathalie Fiesman, qui est une personne géniale, visionnaire, hyper ouverte d'esprit, qui s'intéresse à la cuisine et aux problématiques féminines, mais qui n'a jamais n'a jamais fait de livre de cuisine, d'alimentation, depuis toute l'histoire du seuil, ma première réaction quand elle nous a contactés, c'est de dire, impostrice parce que pas encore totalement concernée par le sujet, même si je me suis rendu compte en disant ça que je disais un peu une grosse bêtise, parce qu'en fait, quand on est femme, on est concernée par le sujet de la ménopause, même si on n'y est pas encore. À un moment ou à un autre, les symptômes, les premiers symptômes, l'entrée dans la périménopause ou priménopause vont arriver. Et c'est un peu comme si je me disais, j'ai pas l'âge, j'ai pas le métier. Bon, voilà, une réaction typiquement féminine. Voilà, ma réponse longue à ta question, quoi.
Non, mais c'est ça, c'est exactement ce que j'avais cru comprendre, effectivement, dans cet édito. Et j'étais assez interpellée, du coup, de voir que, en gros, je me suis dit, ah mince, même elle, a ce syndrome-là, quoi.
Oui, enfin, assez rapidement, je me suis reprise en main et je me suis dit, ok, oui, j'éprouve ce syndrome, on va quand même se mettre au boulot, quoi. C'est pas grave. Ouais. Voilà.
Et toi, Jennifer, tu es naturopathe. Alors, moi, je ne suis pas sûre de savoir exactement ce que ça veut dire. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ?
En fait, la naturopathie, c'est génial parce que c'est l'occasion de se connaître mieux, de connaître le fonctionnement de son corps. C'est de l'hygiène de vie. Et un naturopathe ou une naturopathe, c'est vraiment un éducateur de santé. C'est-à-dire que déjà, on apprend à situer son foie, on apprend à comprendre comment fonctionne le corps, que ce soit de la digestion, que ce soit même son propre fonctionnement personnel, en fait. On a justement en France l'impression que quand on va mal, il faut tout de suite répondre à un symptôme, mais parfois, on peut savoir déjà pourquoi le symptôme arrive. Et donc la naturopathie, c'est de l'hygiène de vie, donc on va voir un naturopathe quand on va bien, finalement. C'est pas forcément quelqu'un qui va pouvoir toujours soigner, voire même on essaye avant tout de comprendre ce qui se passe. Et ce qu'on cherche en naturopathie, c'est la cause de la cause de la cause. On essaye de comprendre pourquoi le symptôme. Voilà, donc une fois qu'on a compris la cause de la cause de la cause, on s'attaque plutôt à ça, plutôt qu'à... Donc on fait pas de l'antisymptomatique. Et très souvent, on a l'impression que de la naturopathie, c'est se soigner par le biais naturel. Donc moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent, j'ai ce souci. Est-ce que t'as pas une plante pour ce souci? Alors moi, en naturopathie, je vais plutôt dire, peut-être ce serait intéressant qu'on essaye de voir pourquoi t'as ce souci et qu'est-ce qui se passe exactement. Donc c'est vraiment de la pédagogie. Le naturopathe doit passer beaucoup de temps à expliquer ce qui est en train d'arriver. Et après, on a des béquilles, bien sûr. Et les béquilles, ça va être l'alimentation, l'hygiène de vie, le sommeil, on va utiliser beaucoup aussi donc ce qu'on appelle l'hydrothérapie, les exercices physiques, la respiration. On a tout un panel, une trousse à outils qui va nous aider à comprendre ce qui se passe, à mieux vivre. Et en fait, c'est une expérience magique et c'est un outil magique de connaissance de soi. Donc voilà.
Il y a une dimension un peu de psy, en fait.
Il y a beaucoup d'écoles de naturopathie qui ont des couleurs différentes. Et l'école que j'ai faite, moi, c'est l'école du Sénato, qui attribue énormément d'importance au côté psy, justement. Ouais. Donc ça, c'est aussi assez intéressant, finalement. Même si dans notre livre, on l'a pas beaucoup utilisé, mais c'est aussi très intéressant.
Et alors, comment vous en êtes venues chacune, du coup, à travailler la cuisine, à aborder ce domaine de cuisine par l'écrit et plus globalement dans vos œuvres et dans votre vie ?
Écoute, moi, j'ai décidé à un moment que... Je ne sais pas très bien comment ça a démarré. Il y a sans doute une origine familiale ou d'éducation. On mangeait des trucs curieux chez mes parents. On mangeait des choses dans mon enfance. Mes parents avaient vécu au Mexique, donc on mangeait un peu mexicain. Ma mère est suédoise, donc on mangeait des boulettes, du saumon, des pommes de terre. Hein, la trilogie suédoise. On mangeait assez végétal, peu de viande. Mes parents étaient assez éco-conscients. On parlait beaucoup de... Alors, je pense pas qu'on parlait d'empreinte carbone dans les années 80, mais il y avait d'autres... un autre vocable, je sais plus quel était ce vocable. Mais on mangeait beaucoup de choses qui pouvaient ressembler à une cuisine paysanne ou une cuisine un peu la cucina povera italienne. Mais on mangeait un peu espagnol, un peu italien, mais vraiment beaucoup de légumineuses, beaucoup de céréales et des recettes un peu familiales, méditerranéennes ou scandinaves ou d'ailleurs, enfin d'Amérique du Nord, latine, etc. Et j'avais pas conscience du fait que c'était particulièrement étrange, mais dans les années 80, dans une classe moyenne à Paris, c'était un peu curieux. Et c'est même plutôt mes camarades de classe, quand ils venaient chez moi, disaient, mais c'est vraiment, c'est trop bizarre ce qu'ils font à manger à tes parents. Mais c'est vraiment bon. Et puis ça change du rôti. Ça change du rôti ou du gigot faillot. Et donc je me suis dit, ah ouais, c'est marrant, c'est intéressant. Et j'ai commencé, je sais pas si ça, je suis un peu en train d'improviser la genèse parce que je sais jamais trop quoi répondre à cette question, mais c'est vrai que j'ai commencé à me dire, c'est drôle ce qu'on mange chez mes parents et peut-être que c'est intéressant de réfléchir à ce qu'on mange. Ça, j'étais un peu enfant ado et c'est venu comme ça. C'est-à-dire qu'après je me suis retrouvée, mais comme chacun d'entre nous, envoyée en Angleterre en famille d'accueil et à trouver ça épatant de fouiller dans les placards, d'aller au supermarché, de ce que les gens mangent au quotidien, je trouve est extrêmement révélateur de comment on vit ou de comment on se comporte. Enfin, c'est la dimension quand même un peu socioculturelle de ce qu'on mange. Là, je dis ça avec mes mots d'aujourd'hui, mais quand j'étais oui. enfant ou ado, je disais juste c'est trop cool ce qu'il y a dans les placards, quoi. Et c'est venu comme ça, une espèce de curiosité, peut-être effectivement d'un tropisme familial un peu particulier au départ, un truc pas banal, quoi. Et ma curiosité a été attisée ainsi. Et puis, au fil du temps, au départ, j'écrivais plutôt sur le cinéma, dans la presse. Et c'était un peu compliqué d'écrire en culture, c'est que les places étaient un peu prises. Et puis, soudain, je me suis dit, mais en fait, la cuisine, c'est un peu ringard. Parce que quand j'ai commencé à écrire sur la cuisine, c'était pas beaucoup de support. C'était pas... Il y avait Goemio, il y avait Cuisine des Vins de France. C'était vachement bien, c'était très quali. Mais ça manquait peut-être un petit peu de pop, quoi, un peu de peps, et j'ai commencé à écrire. Je me suis dit, ben en fait, il y a plein de choses à faire, et c'est finalement, on peut en faire quelque chose de très créatif aussi dans l'écriture. Voilà comment ça a démarré. Puis après, tout s'est enchaîné. J'ai bossé au Fooding, j'ai bossé à l'Express, et les choses se sont faites comme ça de manière complètement organique, sans que j'ai pas décidé un jour que j'allais être journaliste culinaire. Ça m'est un peu tombé dessus parce que j'ai proposé des choses. Voilà comment ça s'est déroulé.
C'est des rencontres aussi, je pense.
Beaucoup de rencontres aussi. Oui, j'ai rencontré, alors je sais pas si vous écoutez l'émission à laquelle je participe sur France Inter, On va déguster. J'ai rencontré François Régis, qui est devenu mon meilleur copain il y a 25 ans. Et c'est vrai que dans une vie professionnelle, parfois une chouette rencontre amicale contribue à dessiner un peu les contours d'une vie professionnelle. Peut-être si j'avais pas rencontré François Régis, j'aurais été peut-être un peu plus multi-sujet et le fait qu'on ait toujours été un peu tous les deux dans le même bateau nous rassurait un peu l'un l'autre sur le fait qu'on s'était pas trompé de sujet. Il y a quelque chose un peu comme ça. C'est chouette de bosser avec ses amis. Et puis, les amis que tu te fais dans le boulot deviennent les gens les plus proches de toi aussi, quoi.
Ce qui rejoint l'idée que c'est marrant parce que du coup, c'est hyper cohérent par rapport au fait que la cuisine, c'est quelque chose qui se partage et qui rapproche. Enfin.
Et du coup, moi, c'était quoi la question? Je me rappelle plus.
Comment t'en es venue à la cuisine? En fait, dans ta vie, tu
comment
vois...
j'en suis arrivée à la cuisine? Moi, c'est assez particulier parce que pour le coup, j'étais graphiste. J'avais fait une formation, j'ai fait l'école Boulle, qui est une école plutôt artisanat et tout ça. Et quand j'ai eu ma fille, j'étais derrière un écran toute la journée et il me manquait vraiment la dimension créative. Et en fait, j'avais vraiment besoin de me reconnecter à la matière. Je m'ennuyais derrière mon écran et j'allais voir Chancelia qui est juste là. et puis finalement, j'ai fait une reconversion en pâtisserie, mais pour des choix un petit peu... au début, c'était un peu intellectuel. Je me suis dit, bah tiens, la pâtisserie, il y a une dimension esthétique, technique. Il y avait une exigence. J'avais l'impression qu'il y avait un rayonnement qui m'intéressait. Et en fait, quand je suis arrivée là, donc j'ai fait mon CAP, et j'ai pas du tout aimé les matières avec lesquelles je travaillais. C'était vraiment du sucre. Moi, j'avais vraiment cette vision idéalisée que j'allais travailler avec des légumes frais, des fruits, qu'on allait transformer ça en purée, qu'on allait faire des trucs, que ça allait embaumer l'abricot dans toute la pièce et tout. Et finalement, bah, c'était pas trop cette réalité-là. Mais ça allait toujours pas tellement. Mais il y avait par contre une rigueur qui me plaisait. J'ai toujours adoré vraiment le côté un peu collectif de la cuisine. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Et donc, c'est vrai que, bon, je me suis dit, c'est pas complètement ça, la pâtisserie. C'est pas ça qu'il me faut, mais je vais pas non plus tout transformer. J'ai pas non plus tout. J'avais quand même entamé une reconversion. J'avais embarqué un peu ma famille là-dedans. Et donc, en complément, j'ai fait des études de naturopathie qui, pour le coup, m'ont complètement embarqué, quoi. C'est-à-dire que ça me permettait de trouver un peu plus de sens par rapport à la pâtisserie. Et je me suis intéressée vraiment au vivant, à la santé. Et je me suis dit que, bah, c'est quand même. Voilà, on mange tous les jours, trois fois par jour. Il pouvait pas ne pas y avoir de lien, en fait. Donc petit à petit, la pâtisserie est devenue plus vertueuse et voilà. Et après, je suis aussi franco-australienne, donc il y avait aussi deux cultures, deux façons de se nourrir différemment, enfin très différentes. Et les deux cultures ont beaucoup nourri tout ça, quoi. Donc voilà.
Avant de parler plus en profondeur du livre, je voulais qu'on précise un petit peu de quoi on parle, parce qu'on parle de ménopause. C'est quoi les particularités de cette période-là ? Parce qu'on parle souvent uniquement des bouffées de chaleur. Mais en fait, c'est bien plus large que ça. Donc, je voulais, avant d'approfondir ça, qu'on précise de quoi on parle.
Il y a bien plus de problèmes que les bouffées de chaleur. Ouais, il y a tout un panel de ce qu'on peut dire symptomatologique et extrêmement divers, qui va être lié soit donc déjà beaucoup à la génétique. On dit souvent que par rapport à la ménopause, il faut beaucoup questionner sa mère ou même sa grand-mère. En fait, il y a tout un historique familial qui peut être intéressant. Sauf que encore faut-il qu'elle puisse nous répondre. Mais ce qui est quand même assez intéressant, c'est que justement en naturopathie, il y a ce qu'on appelle le courant de l'épigénétique qui prouve que on a des gènes en dormance. Donc l'hygiène de vie, en fonction de ce qu'on va mettre dans sa vie, va réveiller ou ne pas réveiller certains, tout le potentiel génétique, on n'est pas obligé d'être dans la répétition de ce qui s'est passé. Donc moi, j'ai rencontré justement de plus en plus, enfin récemment, des femmes qui me disaient, ma mère a une ménopause horrible et en fait, moi, j'ai un mode de vie qui est complètement différent du sien et donc j'ai pas eu du tout tous les symptômes qu'elle a eu. Et c'est ça qui est intéressant finalement, c'est que on pourrait avoir une indication de base, mais finalement, l'hygiène de vie qu'on va mettre en place va beaucoup jouer sur tous les symptômes qui peuvent arriver.
On dit communément qu'il y a une trentaine de symptômes qui vont des sécheresses diverses et variées, qui vont de... Oui.
Des minéralisations. Donc, en fait, comme il y a forcément une... Il y a une disparition des hormones sexuelles. Donc, de par la disparition des hormones sexuelles, on va avoir beaucoup de problèmes ostéo-articulaires. Ça, c'est vraiment la majorité de ce qui arrive. Il peut y avoir potentiellement des faiblesses sur le cardiovasculaire, mais pas toujours. Ça, c'est la partie plus médicale. Mais sur les symptômes qui sont plus démocratisés, ça va être effectivement plus prise de poids, bouffée de chaleur. On va sentir aussi peut-être aussi des problèmes de sommeil, de l'irritabilité, de l'impatience. Il y a beaucoup du brouillard cérébral, l'impression qu'on n'arrive pas à se concentrer. En fait, il faut imaginer que tout est ralenti. Donc, ça s'explique physiologiquement. Et parce que ça s'explique physiologiquement, on n'a pas à se sentir mal de ça, en fait. Et parce que, justement, on n'en parle pas assez, on a l'impression qu'on est responsable de ces états, qui sont aussi des états émotionnels et psychologiques, finalement, mais qui s'expliquent très, très bien.
En quoi est-ce que c'est si différent de l'andropause ou de ce que peuvent ressentir les personnes considérées comme hommes ? À la même période.
Pour Jennifer, tout ça.
À répondre. En fait, l'andropause, déjà, elle arrive bien plus tard. Ils ont de la chance quand même. Hein. Ils ont vraiment la chance, surtout. Non, c'est surtout que, en fait, nous, de par le fait qu'il y a déjà tout l'aspect cyclique, la ménopause, c'est vraiment la continuité des règles, des cycles qu'on peut avoir. Et même les tabous qu'il y a pu avoir pendant des décennies aussi sur les règles, sur... Elvira parlait tout à l'heure justement du fait qu'en France, que t'avais l'impression que c'était pas forcément en Occident, mais que c'était aussi surtout en France. On a quand même une culture judéo-chrétienne, avec tout le respect que je dois à notre culture judéo-chrétienne. Mais en fait, la culture judéo-chrétienne, il y a aussi ce côté silence du corps. On parle pas, on ne nomme pas les choses.
Particulièrement du corps des femmes.
Du corps des femmes. Donc finalement, le tabou de la ménopause, c'est la continuité du tabou des règles. Puisque, par exemple, on va pas se dire, même nous, entre femmes, bah tiens, moi, mes règles, on va se dire, j'ai mal ou je vais avoir tel symptôme, mais on n'en parle pas, alors que finalement, on est tous aussi différentes dans les règles. Bah, la ménopause, c'est pareil. Donc voilà.
Nous, on en parle de plus en plus, j'ai l'impression. Je vois pas mal à la librairie, on a pas mal de collègues qui sont plus jeunes, qui ont entre 20 et 30 ans. Et en fait, elles en parlent très facilement et elles ont décidé d'acheter plein de protections pour en avoir tout le temps à la librairie. Et on s'est tout accordé. Et globalement, c'est beaucoup plus verbalisé. Alors moi, j'ai essayé de l'instaurer aussi, mais je sens qu'il n'y a pas que moi pour le coup là-dessus.
La jeune génération, ouais. Moi, me donne un espoir de dingue. Ça, qu'elles sont beaucoup plus libres, ouais. Féministes, avérées ou juste jeunes femmes bien dans leur temps. Elles sont une espèce de refus du tabou et puis
Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui est complètement assumé.
Normalisation, ouais. C'est assumé, c'est décrispé. C'est là où on se posait toutes les questions du monde. C'est complètement détendu. Ouais. Et je pense que c'est aussi parce que cette génération-là arrive qu'on a peut-être eu envie de faire le livre. Je sais, c'est pas un hasard que ce soit maintenant non plus. Enfin, d'ailleurs, tu parlais du sujet des règles. On parlait du sujet des règles. Ces sujets-là dans le discours public ont été très émergents à la faveur de la libération de la parole ou à l'émergence de la parole des jeunes féministes et qui parlent volontiers de la ménopause alors qu'elles sont très très loin d'être concernées. Enfin, c'est dans longtemps. Mais elle normalise tous ces sujets, donc ça, c'est super ce que tu racontes, ça donne beaucoup d'espoir, quoi.
Mais pas que pour le coup, je pense que c'est. Alors déjà, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que dans les personnes là dont je parle, avec qui je travaille, c'est qu'il y a aussi beaucoup de stagiaires, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui viennent et qui sont là depuis une semaine et paf, qui osent dire, aujourd'hui, en fait, je suis pas très en forme, je suis désolée. Alors il y a quand même un truc de culpabilisation, mais de dire genre juste, je voudrais prévenir, et ça sort assez facilement. Et l'autre chose à laquelle ça m'a fait penser, c'est que les premiers livres qui sont sortis sur les règles, c'était Jack Parker, enfin Taous Merakchi, qui donc a écrit effectivement un livre sur les règles. Elle était assez jeune, parce qu'elle l'est encore, et Élise Thiébaut, pour le coup, qui, elle, était plutôt, du coup, elle avait plutôt déjà une cinquantaine d'années à ce moment-là, et c'est des livres qui datent de 2016-2017, en fait. Donc, c'est-à-dire, il y a quand même très, très peu de temps. Mais... complètement, parce que le premier livre, justement, c'est Élise qui l'a écrit, Élise Thiébaut, qui est aussi journaliste, et le livre s'appelle « Ceci est notre sang ». C'était tout à fait précurseur, et d'ailleurs, elle raconte un petit moment dans le livre, lors de l'écriture, tout le monde était, son entourage était assez interpellé par le fait qu'elle choisisse...
Qu'elle verbalise.
D'écrire un livre entier sur le sujet, et que personne comprenait pourquoi ça prenait autant de pages.
C'est ça. Ménopositive, voilà, un documentaire qui sort, qui passe sur Teva, qui est hyper, où il y a il y a un panel de femmes assez varié. Et pour revenir à l'andropause, l'andropause, il y a aussi des symptômes. Il y a des symptômes de déminéralisation et des symptômes aussi liés, mais ils sont parfois moins perceptibles parce que déjà, nous, l'arrêt des règles, c'est quand même quelque chose qui est assez perturbant. Mais il y a aussi, quand même, on a une usine à l'intérieur de notre corps qui est assez phénoménale, en fait. Nous, ce qu'on passe notre temps à décrire comme quelque chose de péjoratif, parce qu'effectivement, on a vraiment cette notion de cycle, forcément, on le ressent beaucoup plus fort. Donc voilà, c'est plus complexe, finalement.
Pourquoi faire un livre de cuisine spécial ménopause ?
Parce que l'alimentation, c'est quand même un des premiers biais par lequel on peut prendre soin de soi tous les jours. Et on aurait pu faire un livre, justement, comme disait Elvira, plus holistique. On aurait pu aborder on s'est posé beaucoup de questions sur la genèse du bouquin. Ça aurait pu être aussi tout l'aspect, justement, comment on aborde cette période psychologiquement. Au début, on avait un chantier tellement grand, mais on l'a concentré sur la cuisine parce que la cuisine est effectivement une façon, justement, de mettre de l'hygiène de vie au quotidien. Et on peut quand même on peut intervenir sur sa vitalité. C'est un moment de la vie où on est un peu fragilisé, c'est-à-dire qu'on a quand même des symptômes qui nous perturbent. Comme on disait, on n'en parle pas énormément, ou en tout cas, parfois, on peut se sentir un peu seul. Et quand on va voir le corps médical, on n'a pas forcément des réponses. Donc, en fait, l'idée, c'était de, par le biais de l'alimentation, d'aborder, justement, expliquer un petit peu ce qui se passe et de montrer qu'on peut apporter des petites solutions. Par exemple, tous les problèmes de déminéralisation en se supplémentant naturellement, en ajoutant un peu plus de calcium, magnésium, et pas forcément que dans les produits laitiers, mais justement de montrer des ingrédients où il y a une richesse
de micronutriments, ou par exemple on a aussi à cette période une perte de collagène qui est hyper importante, bah de montrer que à travers la cuisine des anciens, en faisant des bouillons type poule au pot, ou que finalement on a les réponses. C'est juste que parfois on fait pas le lien entre cuisiner, prendre soin de soi, et là l'idée c'était juste de le mettre en lumière. Donc voilà.
De nommer les choses et de les identifier. En fait, finalement, on va toutes être ménopausées et on mange toutes 2 à 3 fois par jour. Donc, a priori, l'idée de faire un livre de recettes ou de penser l'alimentation par ce prisme-là était assez, c'est assez organique et assez naturel. Et surtout, c'est de se dire, effectivement, on n'est pas obligé de faire une révolution en profondeur. C'est plutôt, tu dis beaucoup, toi, c'est pas tant ôter des choses, c'est pas tant enlever des choses, c'est pas un régime, c'est pas restrictif, c'est pas punitif, c'est pas vous devez plus faire ça, c'est même pas vous devez plus manger de sucre. On sait, j'allais dire, nommer le fait que les sucres raffinés sont un problème, a priori on le sait toutes, et les personnes qui vont s'intéresser au sujet de l'alimentation, la ménopause, le savent bien. C'est plutôt dire, mais tiens, et si on pensait à faire ça, si on pensait à ajouter ça, si on pensait à ce paquet d'algues séchées qu'on a au fond du placard et qu'on a acheté un jour chez Naturalia dont on ne sait pas quoi faire, et bah si tout simplement on barattait du beurre, on mélangeait du beurre pommade avec des algues et on se disait que notre beurre, de préférence au lait cru, ce serait quand même dans un monde idéal avec un petit peu d'algues, et bah c'est un beurre riche en minéraux, un beurre qui va soutenir le fonctionnement de la thyroïde. C'est presque un peu des petits tips, des petits aides culinaires qui peuvent changer le quotidien, mais en s'inscrivant naturellement, simplement. Moi, c'est mon obsession, parce que je suis un peu paresseuse. Je suis quand même un peu cossarde. Je peux pas passer non plus 4 heures en cuisine pour chaque repas, donc il faut que ça soit vite fait, bien fait. Et là, en l'occurrence, la promesse de vite fait, bien fait, avec un bénéfice de vitalité. Jennifer a commencé par se replonger dans tes cours de naturo. Tu m'as ressorti des tonnes de fiches, de notes, elle m'a envoyé de la doc et d'ingrédients. Et à aucun moment, je me suis sentie noyée sous l'information. Je me suis sentie empouvoirée. Je me suis dit, mais c'est génial, en fait, c'est pas sorcier, c'est pas compliqué. Ça va être à ma portée. Et si c'est à ma portée, parce que moi, j'aime bien, encore une fois, si vous me suivez un peu, vous savez que j'aime bien vite fait, bien fait. Ça va être possible. Il n'y a pas besoin de tout réviser non plus. C'est, je sais pas, 10, 12 de bonnes habitudes et des choses que vous faites déjà sans savoir à quel point ça fait du bien. C'est nommer les choses aussi. Et quand on nomme les choses et qu'on connaît leurs bienfaits, on se sent plus forte à une période où on est tellement fragilisé que c'est quand même vachement... Tous les moyens sont bons de se sentir plus forte, moi, je pense. Ouais.
Bah, c'est vrai qu'Alvira était ravie de voir que le parmesan faisait partie de... Voilà, le parmesan, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait plein de choses, mais en tout cas, la dimension de plaisir, elle était essentielle parce que, c'est comme une, il y avait quand même, c'était en ça que c'était intéressant aussi de travailler à quatre mains parce que il y avait le côté pratique, plaisir, et on a commencé par, justement, dresser une liste d'ingrédients avant tout vertueux et jouer avec ça. Donc, c'était ça qui était assez intéressant.
Avec parfois des choses, des tentatives qu'on a faites qui cochaient des cases vertueuses et qui étaient juste pas bonnes, quoi. C'est aussi un livre de cuisine. Il faut que ce soit bon. Il faut qu'on kiffe et qu'on se régale. Si c'était pas régalant, ça sortait de... C'était viré du livre, quoi.
C'est ça, oui.
Ouais, des fois, il y avait des choses, on voulait que ça marche, on voulait faire... on voulait remplacer la mayonnaise par une... la mayonnaise au tofu soyeux qu'on a réussi, mais ça n'avait pas la même tenue. Enfin, on a eu des... Ou alors, Elvira, qui a aussi... Et c'est vrai que c'était ça, on en parlera, mais l'ouverture sur le monde. On voulait que le livre soit collectif et qu'on amène aussi tout un référentiel qui soit pas juste occidental. Donc, elle dit, moi, je voudrais trop faire un palak panir avec du tofu soyeux et tout. On a essayé, c'était pas... Non, il y a que le fromage qui marche avec le palak panir. S'il faut l'accepter, il faut accepter. Voilà, des fois, ça marche pas. Mais en tout cas, c'était intéressant aussi de mettre en exergue soit des plantes, soit des ingrédients qu'on peut croiser de temps en temps. Elle parlait des algues. C'est peut-être s'il y a un ingrédient qu'il faut quand même retenir. Je ne sais pas si certaines d'entre vous les utilisent déjà ou les connaissent ou les connaissent pas, mais ça vaut le coup de s'y intéresser parce que déjà il y a le côté ça peut saler assez naturellement. Il y a une richesse minérale d'oligo-éléments qui est extrêmement intéressante, ça vient amener du goût et donc on s'est beaucoup inspiré de la cuisine japonaise et c'est un vrai plaisir de jouer comme ça, l'Ayurveda, on a beaucoup joué aussi avec les épices, et qui sont vertueuses. Mais ce qui est assez magique, c'est de se rendre compte qu'il y a des ingrédients ou des recettes qui sont parfois créés dans certains référentiels de santé de manière empirique, mais on peut tellement l'expliquer après par le biais d'études, par le... Enfin, il y a tellement de sens. Voilà. Donc c'était chouette aussi d'ouvrir dans les différents référentiels de santé, y compris à l'international.
C'est pour ça, justement, je me demandais, parce que dans ce livre, outre des recettes fort goûteuses, il y a des focus sur les céréales, sur les huiles, sur le sucre, mais il y a aussi des interviews de femmes comme Ryoko Sekiguchi ou Alessandra Montagne. Est-ce que c'est justement pour avoir une ouverture hors de la culture française que vous avez choisi d'ajouter aussi des témoignages ?
Bah, complètement. D'abord, on voulait des témoignages d'autres femmes que nous parce qu'on trouvait chouette. Bah, on est deux autrices. Notre photographe, Anaïs Boileau, qui a fait un super boulot et, enfin, c'est par hasard, on a choisi une jeune femme photographe qui vient pas de l'univers de la cuisine, d'ailleurs. Et on trouvait chouette que le livre ait une dimension collective, qu'on soit pas les deux seules voix qui portent le bouquin. Et effectivement, on s'est dit que ouvrir le livre à d'autres cultures, donc Ryoko est japonaise, Alessandra Montagne est brésilienne, Farah algérienne, tunisienne, Bina qui est indienne, Zoé qui est coréenne. L'idée, c'était vraiment de demander à ces femmes, qui toutes avaient un point de vue intéressant sur le sujet, de nous partager un peu de leur savoir, de leur expérience. Or, certaines de nos témoins sont carrément au milieu du guet de la ménopause. C'est le cas de Ryoko, donc elle en parlait vraiment avec beaucoup de sincérité et d'intensité. Farah n'est pas encore concernée. Perla Servan-Schreiber, qui est d'origine marocaine, elle, c'est plus loin derrière elle. On trouvait intéressant d'avoir des femmes de générations différentes, de cultures différentes, qui soit allaient nous raconter comment le sujet était abordé dans leur famille, quand elles n'y étaient pas encore, ou comment il avait été abordé, et qu'est-ce que leur origine géographique racontait de cette manière de percevoir les choses. C'était assez édifiant, d'ailleurs, à quel point c'est riche et à quel point, notamment, que ce soit notamment au Japon ou au Brésil. Alors, au Brésil, c'est un peu différent. C'est un pays, comme la famille d'Alessandra est très catholique, donc on nommait pas les choses. Les choses n'étaient pas dites. On parlait pas de ménopause, mais le savoir, un peu un savoir de sorcière, un peu un savoir de plante amazonienne, empirique, se transmettait de grand-mère et de mère en fille. Dans le cas de Ryoko, il est très clair, ou dans le cas de Bina, la femme ménopausée, c'est la femme qui est en toute puissance, c'est la boss de la famille, elle est respectée, elle détient la sagesse. On dit, oui, on a quand même du chemin. Hein, enfin.
Je crois que c'est Zoé qui disait que, bah, pour elle, c'était même pas un sujet, qu'en fait, les femmes de sa famille, enfin, les femmes dans sa culture, sont préparées 20 ans à l'avance parce que, à travers les dîners en famille, les femmes plus âgées en parlent des symptômes et tout de suite disent, ben voilà, faut mettre plus de ci dans l'assiette, tout ça. Donc, en fait, elles sont naturellement préparées parce qu'il y a aussi un côté intergénérationnel autour des repas et que on en parle. Donc c'était intéressant pour les ingrédients, c'était intéressant parce que l'approche n'était pas la même selon les cultures, donc c'était chouette aussi de jouer avec tous ces référentiels-là.
Et ça enrichit vraiment un propos qui sinon aurait pu être assez occidental, du fait de nos cultures qui sont assez semblables.
Bah, surtout qu'effectivement, c'est des écarts, enfin, en fonction de effectivement ce qu'elle raconte chacune d'entre elles, de se dire effectivement, je crois que c'est Zoé qui est nutritionniste, que tu viens de dire, ça se prépare 20 ans avant. C'est tellement pas
c'est
ce qu'on
sidérant.
Entend ici. Ouais.
Sujet pour elle. Enfin, c'était marrant. Elle disait, je comprends pas. Enfin, en fait, en plus, Zoé, elle vit aux États-Unis. Donc, elle disait, là, ça y est, je sens que c'est un sujet qui arrive depuis 2 ans, parce qu'ils sont, ça fait peut-être un an ou deux, toi, tu disais que ça commençait déjà dans les pays anglo-saxons, on en parle davantage, mais elle trouvait ça hallucinant qu'on en fasse tout un truc, en fait. Enfin, donc, c'était assez marrant, quoi.
Comme quoi. J'ai reçu Fiona Schmidt, la journaliste et écrivaine, récemment, là, justement, pour la sortie de son dernier livre qui s'appelle Vieille peau et qui parle justement de la peur de vieillir. Donc, elle parle notamment de son ressenti par rapport au fait de vieillir, mais qui s'est ancré pour elle, qui est devenue problématique très jeune parce qu'elle ne parle pas uniquement de la ménopause, dont elle ne ressent pas les effets pour l'instant, mais elle parlait de la perception des autres de son âge et l'écart qu'il pouvait y avoir. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui était grande quand elle était petite et qui, du coup, était perçue comme quelqu'un de plus âgé qu'elle n'était vraiment. Donc, imaginez un petit peu ce que ça a donné à l'adolescence. Donc ça, j'ai trouvé que c'était assez intéressant et je me suis demandé si vous, le fait de vieillir et le rapport à votre propre âge, c'était quelque chose qui était une réflexion pour vous qui était venue récemment, qui est quelque chose auquel vous avez pensé depuis plus longtemps que ça. C'est quoi votre rapport au vieillissement ?
Comme je suis plus âgée que toi, je vais répondre en premier. Le privilège de l'aîné. Écoute, moi, comme je fais un métier d'image, pour partie, parce que je travaille à la télé aussi, la télé, c'est quand même vraiment terrible. C'est-à-dire que la télé, c'est vraiment le miroir déformant, le miroir grossissant, où finalement, on peut avoir le sentiment que les personnes qui te regardent n'écoutent pas ce que tu as à dire et vont dire « Ah, t'avais l'air un peu fatiguée, ouais, tu t'es bien coiffée l'autre jour, c'est bon. » Et donc, c'est fait... À la fois, ça te fragilise, mais ça te blinde un peu aussi. C'est-à-dire que tu finis par... enfin, en tout cas, dans mon cas, l'idée des signes de vieillissement physique, comme je suis habituée à être scrutée, enfin, je présente pas non plus le journal de TF1, quoi, mais néanmoins, j'ai souvent eu des commentaires « Ah oui, t'avais l'air un peu fatiguée, là, t'étais bien. » Donc, effectivement, tu prends de la distance par rapport à ça. Là où je vais te répondre plus sincèrement, quand notre éditrice Nathalie nous a contactés, il y a eu cette histoire de syndrome de l'impostrice dont tu parlais en début d'entretien, mais j'ai eu d'abord aussi une réaction de rejet, donc double réaction un peu négative, qui était « Oh là là, non, ménopause, moi, oui, que mon nom soit associé à un sujet sur la ménopause dans Marie-Claire, parce qu'on a commencé comme ça, par faire un article à quatre mains. » C'est mon job, je suis rédactrice en chef adjointe de Marie-Claire, c'est un magazine féminin féministe, je suis cachée derrière la marque Marie-Claire, ça va très bien, je fais juste mon travail. Mais de là, porter un projet ménopause alors que j'y suis presque, limite, ça aurait été plus simple avec 15 ans de moins. Là, je me dis, ah, mais les gens vont savoir, alors. Je pense, ah, donc vraiment, alors que je dis pourtant mon âge bien volontiers. Mais c'est une chose de dire son âge bien volontiers, presque par coquetterie, où tu dis, et de dire oui, bah, j'ai cet âge-là, et en plus, je suis en plein dedans. Donc, j'ai eu, et donc, quand je te dis, je m'abrite un peu derrière le syndrome de l'impostrice, la vraie raison, c'est que je voulais pas trop, si on peut ne pas trop m'associer à la ménopause, ça m'arrange. Et puis, au bout de 48 heures de réflexion, encore une fois, je me suis dit, bah non, évidemment, je dois y aller, et je dois ouvrir la voie pour que ce soit OK de parler de ça. Et moi-même, qui ai l'air d'être un peu crispée sur le sujet, eh ben, ça va aussi me décrisper. Et si ça me décrispe moi, ça décrispera mes copines, mes sœurs, au sens propre comme au sens figuré. Donc oui, non, c'est pas... Je te dis, c'est des rap... On a une relation ambivalente à ça. Enfin, à la fois, on gagne quand même en sagesse, en vieillissant, c'est évident. Et puis voilà, cette chose... C'est une petite gêne issue du patriarcat, issue de la culture occidentale. Voilà, je suis pas Bina, je suis pas Ryoko. Donc je viens aussi de... Cette culture-là, qui est une culture d'obsession pour la jeunesse, et cette chose qui est effectivement, quand t'es une femme et que t'es plus en âge de reproduire, t'as le sentiment dans une culture occidentale et peut-être plus particulièrement française que t'es un peu bonne pour la casse. Donc faut essayer de, non, c'est non en fait ça, et c'est on va produire quelque chose qui a du sens et qui est joyeux pour et on va tout unir nos forces pour contrecarrer cette idée issue des ténèbres de médiévales quoi. Médiévaux, médiéval, une ténèbre, un ténèbre, je ne sais plus.
Moi, c'est vrai que j'avais plus le syndrome de l'impostrice parce que je ne suis pas non plus dans la tranche ménopausée. Et c'est vrai que je me dis, c'est quand même intéressant pour la partie naturo parce que je sens vraiment que c'est un sujet qui m'intéresse. Mais en fait, surtout, c'est vrai que j'ai eu un peu le même... sur le coup, j'ai eu un peu le même réflexe de me dire, c'est pas sexy... En fait, sur le coup. Et je m'en suis beaucoup voulu parce que je me suis dit, c'est pas cool. Finalement, quand on réfléchit collectif, tous les âges de la vie, on les traverse. Mais c'est vrai que d'un point de vue personnel, auto-centré, je me suis vraiment dit, non, c'est pas sexy. Mais c'est vrai que je m'en suis assez vite voulu parce qu'en plus, j'adore la présence et la compagnie des femmes plus âgées que moi. Dans mon écosystème d'amis et ma propre famille, je trouve qu'il y a une richesse
voilà, de partage, d'échange féminine qui m'a énormément nourrie humainement. Et donc je me suis dit, c'est trop réducteur. C'est trop réducteur, quoi, que finalement, plus on avance en âge et plus on doit, je sais pas, moins rayonner quelque chose. Alors qu'en fait, il faut changer de prisme parce que c'est juste que l'énergie change. C'est-à-dire que si on se réfère par exemple au référentiel de la médecine chinoise, dans une première partie de sa vie, on est dans une énergie, on va dire, plus yang, où on est plus tourné vers l'extérieur. Et avancer en âge, c'est aussi accepter peut-être d'être dans une énergie qui va être plus yin, plus intérieure, plus profonde. Ça ne veut pas dire qu'on se coupe du monde, ça ne veut pas dire qu'on... Ça veut pas dire qu'on est moins dans l'action, ça veut pas dire qu'on est moins... Ça veut pas dire qu'on... Mais c'est vrai que notre société valorise pas le yin. On valorise pas le fait de pas faire des choses, on valorise pas le fait de pas être dans l'action. Donc forcément, l'enfance et quand on est un peu plus âgé, on a une place qui est ambiguë dans la société, quoi. Donc déjà, c'est ça. Mais moi, j'aimais bien l'idée de m'intéresser justement à cette énergie plus yin, et je trouvais que il fallait faire quelque chose d'un point de vue collectif. Et comme Elvira, je l'ai fait un peu égoïstement pour moi-même. Je me suis dit, ça va être l'occasion d'y réfléchir et de préparer ça, parce que présenter comme c'est présenté aujourd'hui, c'est pas joyeux. Et il faut qu'on trouve une manière créative de rendre ça plus joyeux.
Et qu'il n'est jamais trop
intéressé,
et aussi qu'il n'est jamais trop tard. C'est-à-dire que c'est ce qu'on raconte dans le livre, c'est pas parce qu'on est ménopausé depuis 5 ans qu'on a loupé le coche. Il n'y a pas d'injonction. C'est-à-dire que si à 30 ans, on a envie de s'intéresser au sujet, on s'y intéresse. Si à 60 ans et qu'on est ménopausé depuis 9 ans, on va pas dire « Ah bah zut, si j'avais eu ce livre entre les mains !» Il sera toujours temps de penser aux apports en oméga-3, en calcium, à la vitalité. Il n'est jamais trop tard, quoi. Je sais pas si on l'a assez dit d'ailleurs.
Et c'est vrai que moi, quand avant d'avoir mes règles, on m'en avait parlé. Je crois que j'avais nourri une espèce de peur pour le truc. Et en fait, quand c'est arrivé, je me suis dit ah, en fait ça va. En fait ça va, ça se gère, quoi. Et en fait c'est un peu pareil pour la ménopause. On verra. Mais je me dis quand la société nous présente ça, c'est péjoratif, c'est négatif, c'est pas joyeux. On célèbre pas. Et il y a moyen d'essayer de ritualiser les choses pour que ce soit un peu plus joyeux, quoi. Même si les symptômes sont pas agréables, on peut en faire quelque chose de plus sympa.
Surtout qu'il y a l'air d'avoir le double étage, c'est-à-dire que non seulement il y a des ressentis qui sont quand même très désagréables, mais en plus, comme c'est encore complètement tabou, on a la culpabilité de se dire « Ah non !» et puis de l'appréhension aussi, les bouffées de chaleur, c'est quand même sacrément horrible quand ça vous arrive 10 fois par jour et que vous êtes en représentation, que vous êtes prof par exemple, que vous êtes libraire et que en fait vous passez votre temps à enlever, remettre, et puis ça se voit, enfin c'est quand même pas... C'est au-delà de l'inconfortable, quoi. Mais c'est sûr qu'il y a le fait que ce soit encore tabou, ça renforce la dimension psychosomatique, quoi. Donc,
mais c'est aussi pour ça qu'on a fait ce livre. Ça contribue à décrisper la conversation et à la rendre possible.
Ah oui.
Quand on, finalement, après 48 heures de réflexion l'une et l'autre, quand on se dit, non, en fait, bien sûr qu'on va le faire, on s'est toutes les deux dit. On le fait à condition que le seuil accepte que le mot ménopause soit sur la couverture. Il va pas s'agir de faire belle dans mon assiette ou je sais pas quoi là, ou belle à tout âge, ou belle pas, ou bien vieille et belle, ou je sais plus ce qu'il en voulait. Et notre éditrice était à fond avec nous, mais il y a eu des comités de lecture, je sais pas comment on appelle ça. Oui, ce serait pas mal quand même, bien dans mon assiette à tout âge. Et là, on s'est un peu dit, oui, on en vendrait plus, ça c'est certain, parce qu'au moins les hommes. Là... Non, la santé par l'assiette, les hommes l'achètent. Là, un peu moins. Mais on s'est dit, on en fait une affaire... c'est presque une affaire de principe. Ne pas mettre le mot ménopause sur la couverture, c'était presque un coup d'épée dans l'eau, où c'était jouer le jeu de l'omerta. Omerta, je vais un peu loin, mais...
Mais finalement, pas ce qu'on s'était dit, la volonté de porter un sujet, quoi.
Enfin, de c'est resté vraiment, dans le tabou, quoi. En fait.
C'est rester dans le tabou, c'est proroger un tabou tout en faisant semblant un petit peu de s'acquitter d'une mission. D'où le fait que pour compenser, on a mis du rose, on a mis du vert. Voilà, ça, On a fait la couve la plus joyeuse, mais d'abord parce qu'on avait envie, que le livre est joyeux et qu'on s'est attelé une tâche qui nous a quand même mis en joie aussi. Donc on ne sait pas forcément non plus, mais c'était important effectivement. Le rose et le vert, c'est pas par hasard. Il fallait quand même compenser un peu le monde de ménopause pour l'éditeur, quoi. Un peu de ça. Mais oui, on est contente et fière effectivement. Puis c'est marrant le nom Manuel Gourmand de la ménopause. C'est presque un oxymore. Manuel Gourmand, ça va un peu avec confiture, avec le Manuel Gourmand du pot-au-feu, quoi. Donc c'est marrant d'avoir le mot ménopause qui tombe un peu comme un couperet, quoi.
Ouais. Et puis je pense qu'on est qu'aux prémices aussi, hein. C'est-à-dire que là. C'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, Marie, c'est que là, il y a de la littérature qui commence à vraiment sortir, on commence à être tout un tissu, ça commence à être intéressant. Voilà, il y a plein de paroles, c'est ça qui va être cool, quoi. Mais on est aux prémices. Voilà.
Ouais. Ouais, bah justement, ça, c'est effectivement ce qui est en train de se passer, comme ça s'est passé il y a quelques années pour les règles. C'est-à-dire qu'on commence à avoir des livres qui parlent de ménopause. Et qui parlent de ménopause avec des angles un petit peu différents. On a Bouffée de chaleur qui vient de sortir aux éditions Zone. On a Game is not over qui est sorti chez Marabout. On a Vieille fille, du coup, qui était sortie l'année dernière, qui vient de passer en poche de Marie Coque. Et en fait, elles abordent des la ménopause, cette période-là, par différents aspects. Et tout d'un coup, c'est pas anodin que tout d'un coup il y ait 4 livres qui sortent la même année sur le sujet, là où il n'y en avait pas du tout, ou très peu, ou d'un unique point de vue médical. En faisant mes recherches pour préparer cette soirée, je suis tombée sur des trucs assez catastrophiques qui, heureusement, ne sont plus dispo, quoique, mais qui étaient en gros belles malgré mon âge, enfin des trucs, mais qui sont des injonctions, sans même parler d'injonctions à la minceur, hein, mais enfin, assez catastrophiques. Mais oui, je trouve. Et puis, alors c'est peut-être mon prisme de libraire, mais je pense que ce qui sort en librairie, c'est pas anodin, parce que il y a beaucoup de livres qui sortent, mais en même temps, le livre doit être rentable. Donc, qu'il y ait des choix politiques, de politique éditoriale, de publier un livre qui soit consacré à la ménopause, c'est pas anodin non plus. Donc si on a plusieurs qui sortent en même temps, c'est quand même le reflet que il y a des choses qui bougent, parce que ça veut dire qu'on estime qu'il y aura un certain public qui pourra l'acheter, etc. Donc qu'il y ait plusieurs maisons d'édition qui habituellement ne sont pas sur des terrains de sujets politiques ou féministes, qui s'en emparent, c'est assez révélateur. Enfin, moi je vois qu'il y a des choses qui sortent, et après, quelques mois ou années après, ça bouge un petit peu au niveau sociétal.
Oui. Ouais. Et d'ailleurs, pour abonder dans ton sens, il y a un papier dans le Figaro avant-hier. C'est bien dire que les choses bougent.
Oula,
le Figaro s'intéresse à la ménopause, c'est quand même, franchement, qui l'eût cru, quoi.
J'ai deux dernières questions. D'abord, je voulais élargir un petit peu la cuisine. C'est vraiment un domaine que moi, je connais pas, et je me suis demandé, parce que je crois, de ce que j'en sais, il y a quand même assez peu de... Il y a beaucoup de femmes qui cuisinent, mais qui sont pas forcément à des postes haut placés. Notamment, je pense à quand on commence à parler de chefs qui sont bien en vue, de haute gastronomie, là, bizarrement, on commence à manquer un peu de femmes, ou à ne pas les voir, en tout cas. Est-ce que c'est en train de bouger aussi?
Oui, ça bouge. Ça bouge. T'as ces cotons là. Ça bouge parce que la société évolue, que voilà, qu'on est en 2023. Ça bouge. Ce qui m'intéresse moi plus particulièrement, ce sont des aventures de femmes chefs ou parfois de couples de restaurateurs qui décident qu'ils ne vont pas se plier à ce qui semble être le jeu de la restauration haut de gamme qui te dévore ta vie, qui te dévore ton être et ton essence et ton esprit et ta santé et ton dos, etc. Et qui décident qu'ils vont réussir à imposer, avec un modèle économique que je connais pas très bien, des horaires compatibles avec une vie de couple, une vie de famille ou juste une vie solo, peu importe d'ailleurs, qu'on soit célibataire ou en couple. Ça va vouloir dire, par exemple, ne pas être ouvert le week-end. Ça va vouloir dire ne pas forcément être ouvert le soir, être ouvert en continu avec un service le matin jusqu'à 15h et on arrête. Ça, c'est assez propre quand même aux grandes villes. Ça commence à se manifester de plus en plus à Paris, Londres, New York, etc. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Ça veut dire ne pas vouloir être l'esclave de ce métier dévorant. Et là-dedans, tu peux inscrire aussi le fait que je pense que c'est poussé par des femmes. Je pense que c'est vraiment les femmes, parfois en couple, parfois seules, qui décident qu'elles vont créer un canevas de travail qui va être différent de celui que les hommes ont imposé depuis l'histoire de la Restauration. Je réponds pas tout à fait à ta question. On voit beaucoup de jeunes, plus ou moins jeunes femmes chefs qui dessinent des contours d'un restaurant beaucoup plus humain, beaucoup plus ouvert d'esprit, beaucoup plus respectueux du droit du travail, avec des normes de droit du travail qu'elles définissent elles-mêmes. Alors, je pense à quelqu'un qu'on... Voilà, je pense à Manon, je vais te laisser peut-être raconter ton expérience, que tu y allais, moi, pas encore. Manon Fleury, qui est une jeune femme chef épatante, qui impose hyper naturellement un modèle qu'elle a un peu réinventé. Non, qui... Elle questionne en permanence. Donc oui, quand je vois une Manon Fleury... Après, Manon Fleury, on est à Paris... Est-ce que c'est l'arbre qui cache la forêt? Est-ce que je... c'est quand même vraiment un métier qui est loin, loin, loin d'avoir fait sa révolution, je trouve. Il y a des signaux très encourageants et Manon en est un. Et peut-être je te laisse raconter, toi, ton ressenti, parce que c'est quelqu'un que tu aimes beaucoup et je ne sais pas si tout le monde la connaît.
Non, je ne crois pas.
Une jeune femme chef qui a été formée, je ne sais même pas, elle était chez Passard à l'Arpège. Elle était chez Alexandre Couillon à Noirmoutier. Elle est très engagée, très féministe, très sororale dans sa manière de travailler. Elle travaille avec beaucoup de femmes. Oui, oui.
Enfin, c'est vrai que c'est un métier qui s'est construit sur... sur une approche très militaire, avec une hiérarchie très précise, une autorité très, très verticale, très brigade. Et au contraire, là, j'ai l'impression qu'il y a des modèles qui émergent plus sur le côté horizontalité, collectif, où, en tout cas, on questionne plus le bien-être de chacun. Et c'est aussi dû au fait que c'est un métier qui s'est vidé de sa substance. C'est-à-dire qu'après le Covid, il y a eu une grosse pénurie de personnel. Et donc, c'est un métier qui a été quand même un peu obligé de se poser quelques questions. Comment ça, ils veulent pas être esclaves? Comment ça? Bah oui, en fait, voilà, la qualité de vie, tout ça, donc... Comme dit Elvira, je pense que les femmes dans la profession y ont beaucoup contribué, mais elles sont encore quand même minoritaires, quoi. Enfin, elles sont pas encore majoritaires. Mais et des exemples comme Manon, il y en a pas énormément. Mais c'est marrant parce que c'est aussi le fait que très souvent dans des écosystèmes de restaurants, moi j'ai l'impression qu'il y a on peut sentir la présence justement de certaines femmes, mais elles vont pas chercher la lumière aussi parfois. Elles vont être les vraies logisticiennes de la vie collective. Elles vont comme toujours être dans le soin et le care et le fait de s'occuper de l'humain. Et comme c'est pas valorisé, comme c'est pas quantifiable, et c'est pas ça qu'on va mettre en avant, en fait. Donc c'est comme dans tous les métiers, quoi. Finalement, elles sont présentes, elles font beaucoup, mais elles auront pas la lumière. Et d'ailleurs, récemment, il y a eu quelques prix qui ont été remis à des chefs. Et des gens qui pouvaient connaître le travail de ce chef disent, mais il n'est pas tout seul, c'est le couple qui travaille. Enfin, ça arrive souvent, ça aussi. Donc voilà.
Je disais, je peux bâcher un peu là, je peux dire.
Je dis ça.
Non, mais c'est après. Je digresse un peu parce que c'est pas en lien. C'est un peu une incise par rapport à ta question. J'ai reçu un livre, je reçois plein de livres moi, chez moi. Et je feuilletais un livre que Yves Candebord, qui est un chef de bistrot que j'adore, hein, par ailleurs, c'est un super chef. Il a coécrit avec Laurent Séminel, qui est éditeur, un livre sur les 50 livres de cuisine qu'il faut avoir lu dans sa vie. Il n'y a pas un livre écrit par une femme. Il n'y a pas un livre non français. Alors, je réponds pas du tout à ta question. C'est juste que ça m'a. J'étais tellement si. Je le feuilletais avidement en me disant, je vais quand même tomber. S'il y a le livre de Robuchon qu'il a écrit avec Patricia Wells, qui était une grande journaliste, qui était la correspondante en France du New York Times ou du Herald Tribune. Donc, il y a un nom de femme. Alors, c'est pas ce que je dis. C'est pour dire que ce type-là, qui est quand même un chouette chef, un gars très sympa, en 2023, il pense que c'est OK de sortir un livre, alors qu'il pourrait en faire. Et c'est pas possible. Il a forcément un livre écrit par une femme qu'il aime. Il y a forcément ça. C'est juste que ça ne lui est pas apparu comme indispensable de l'indiquer. Ou c'est... Tu vois ce que je veux dire? Je réponds pas vraiment à ta question, mais c'est...
Si, parce que c'est très révélateur.
C'est un livre qui paraît là. L'éditeur s'est pas dit, on a un petit problème. Bon bah.
Et les chefs, c'est les premiers à, quand ils te parlent de comment ils ont appris la cuisine, à te parler des souvenirs de leur grand-mère et de leur mère et de, du riz au lait que faisait leur tante et compagnie. Mais par contre, voilà. Ils ont eu le déclic grâce aux femmes, mais finalement, dans, ils considèrent pas que, que dans leur écosystème de travail, il doit y en avoir. C'est marrant.
Ouais, il y a du boulot.
Mais on reste optimiste quand même, parce qu'il y a des signaux qui indiquent un changement. C'est juste que c'est lent, quoi.
Ouais.
On est bien d'accord. Est-ce que dans, parmi les recettes qui sont présentes dans, dans votre livre, est-ce qu'il y en a qui sont un peu votre, vos recettes fétiches ?
Vas-y, toi.
Moi, j'ai un peu toutes les recettes qui impliquent... J'ai l'impression de raconter toujours le même truc. J'ai découvert un produit... En fait, comme beaucoup d'entre vous, j'ai régulièrement acheté du tofu dans ma vie. J'ai des cycles, moi. J'ai des cycles où j'achète des produits, que je les utilise en boucle, et après, je m'en lasse un peu, et j'ai bon, en fait, bof, quoi. Et grâce à Jennifer, tout simplement, en mesurant les vertus du tofu, et notamment du tofu lacto-fermenté, qui est la forme la plus vertueuse du tofu, parce qu'elle est débarrassée de ses purines, si je dis pas de bêtises. La purine, c'est un déchet dont l'origine étymologique est le même que l'urée, quoi. C'est un déchet protéinique, comme la viande, etc. Donc, le tofu lacto-fermenté débarrassé de cette toxine est très facile à utiliser, notamment dans une recette géniale de Jennifer, que j'ai pas arrêté de la faire depuis l'autre jour. Le dip vert. Le dip tout vert, c'est à la fois un dip, donc il suffit de tremper des crackers dedans, mais ça peut être aussi une base de sauce, ça peut être un début de risotto tout vert. Enfin, c'est vraiment en fonction de la texture qu'on lui donne, plus ou moins liquide, plus ou moins dense. C'est un très bon... Bah voilà, c'est cette page-là. Il est vraiment très boosté en chlorophylle. Le dip vert peut se faire avec une poignée de cresson, avec un petit peu de vert de poireau qu'on a. Voilà, on a utilisé les blancs pour faire des poireaux vinaigrettes et on a toujours ce gros morceau vert un peu racorni dont on ne sait pas quoi faire. Moi, je suis coutumière, j'ai acheté des herbes. Ah zut, j'ai des herbes, elles sont en train de devenir un peu jaunes. Bah, donc, on peut mettre tout ce qui traîne de vert, mais ça peut être des fans, ça peut être des épinards, ça peut être de l'ortie, ça peut être... voilà, et on mixe ça avec une huile. C'est le bon endroit où on peut mettre typiquement de l'huile de colza, dont le goût, moi, me séduit pas en tant que tel, mais qui est tellement riche en oméga 3. Donc, de la verdure, de l'huile de colza, un peu d'huile d'olive. Tiens, j'ajoute un peu de parmesan, tu penses ça? Attends, ça mange pas de pain, tu vois. Un petit peu de sel ou un peu de tamari, qui est de la sauce soja dépourvue de blé, donc sans gluten. Et ça fait voilà un début de recette que je trouve épatant. Et sinon, j'avoue effectivement que pas mal de petites sauces, moi, c'est un peu mes aides. Moi, j'aime beaucoup les sauces, les condiments qui donnent du relief à un plat quand on n'a pas le temps ou quand on a un peu la flemme de cuisiner. Une sauce pour salade César, mais sans le côté vraiment super grassouille de la sauce de salade César, avec du tofu soyeux, avec des anchois, avec de l'ail. Et ça dépote, quoi. Voilà.
Ça donne faim.
Justement, j'essaye à chaque fois de changer de recette pour pas ressortir toujours la même. Bah, j'ai effectivement le cake vapeur, enfin le cake au sésame. Non, le sésame est une source extraordinaire de calcium. On croit toujours qu'il y a que dans les produits laitiers, comme on disait tout à l'heure, mais voilà, dans les algues, dans le sésame, il y en a beaucoup. Donc moi, j'adore travailler le sésame et on en a mis pas mal dans les recettes. Et là, on a fait un cake sésame noir avec aussi, on a mis du tofu soyeux, mais ça peut être aussi du yaourt. Et on fait une cuisson vapeur parce que justement, j'avais bien expérimenté la vapeur et je trouve que ça marche très bien. Et après, bah là, comme on arrive sur l'hiver, moi, je me passionne de bouillon et je trouve que, comme je disais tout à l'heure, la fameuse poule au pot ancestrale, pourquoi pas y ajouter quelques algues type wakame, kombu, faire une espèce de poule au pot terre et mer comme ça et des épices douces, cannelle, gingembre, des champignons, enfin, ouais, simplicité, gourmandise et voilà, ouais.
Cake vapeur, et avant ça, pour l'apéro, un petit dip vert. Franchement, vous êtes pareil pour l'hiver. Pareil pour l'hiver, pareil pour la ménopause.
Parfait. Bah, ce sera le mot de la fin, c'est parfait. Merci, merci beaucoup pour cette belle discussion.
C'était Girls Power. Si ça vous a plu et que vous trépignez d'envie de nous le dire,
on est joignable sur Instagram et sur notre site librest.com. Vous y trouverez aussi les livres et les autres références dont on a parlé. J'y mets aussi les prochaines dates des soirées Girls Power et des sélections thématiques, comme des idées de livres féministes pour enfants ou des livres sur les sorcières ou sur l'afroféminisme, et toutes les infos de ce podcast. À bientôt pour le prochain épisode de Girls Power.